Bon, ok, continuons notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. On en est au livre de l'Exode. On avait commencé un petit peu une première partie. On termine ce soir, on devrait terminer. Donc, on avait vu que dans le chapitre 1 à 18, c'était vraiment la sortie d'Égypte avec tout ce que ça l'amenait pour de miracles de la part de Dieu pour faire sortir le peuple d'Égypte. Et il y avait beaucoup de choses à apprendre dans cette section-là. On était rendu à la section sur la loi. On avait vu que dans le livre de l'Exode, du chapitre 19 aller jusqu'au chapitre 24, on a vraiment ce qu'on pourrait appeler la loi. Mais dans ces trois parties, dans cette section-là, il y a comme trois parties. Il y a les 10 commandements, qui est ce qu'on appelle la vie, qui était là pour régler la vie morale des Israélites, chapitre 19 et chapitre 20. On avait aussi ce qu'on appelle les jugements. Donc, ça, c'était le donné de la part de Dieu pour régler la vie sociale d'Israël, chapitre 21 à 23. Et on avait aussi les ordonnances, qui était plus pour régler la vie religieuse, autrement dit, la manière d'adorer et d'autres détails sur comment Dieu veut être adoré. Chapitre 24. On était rendu là. Donc, la loi, on avait vu ces trois parties. On était rendu au point B, là. La loi, pourquoi elle a été donnée? Premièrement, pour promouvoir un standard de justice. Un standard, on sait, c'est quelque chose qui est proposé comme un idéal. Alors, un standard de justice. Donc, c'était une théocratie. Qu'est-ce que c'est une théocratie? Théo, ça veut dire Dieu. Cratie, ça veut dire gouvernement. Un gouvernement qui se faisait par Dieu lui-même. Il n'y avait pas, c'était pas comme une démocratie, c'était pas le peuple qui. C'était vraiment Dieu qui dirigeait lui-même. Ça se faisait de façon directe. Donc, la théocratie et la nation le requérait que ce soit la loi a été donnée. Deutéronome chapitre 4, verset 8. Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? On a aussi dans le psaume 19, verset 7 à 10, des caractéristiques de la loi. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Si on se mettrait juste à analyser ces quelques versets-là des psaumes, avec toutes les caractéristiques que la Bible dit, que la loi est, on a beaucoup de choses. La perfection, la vérité, la droiture, la vérité, la justice, la préciosité, la douceur. Énormément de choses. On a aussi le psaume 119, versets 44 à 47. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. C'est un beau verset, le verset 47. Faire ses délices des lois de Dieu. Est-ce que c'est notre cas? Des fois, on peut s'arrêter à penser, est-ce que pour moi, les commandements de Dieu, ce sont des délices pour mon âme? Donc, la première raison pourquoi elle a été donnée, c'est pour promouvoir un standard de justice. Deuxième raison, pour exposer et identifier le péché. Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 3, 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Autrement dit, si tu veux montrer à quelqu'un qui pêche, tu lis le décalogue. Parce que c'est par elle qu'on peut montrer aux gens qui pêchent. Romains 7, 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Galates chapitre 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un révélateur, d'un médiateur, excusez-moi. Troisième raison pour laquelle la loi a été donnée, puis c'est pour révéler la sainteté de Dieu. La révélation biblique suit obligatoirement cet ordre. D'abord, la puissance de Dieu, création, déluge, dispersion de Babel, le jugement de Sodome, suivi de l'Exode. Puis, la sainteté de Dieu est révélée par la loi. L'amour de Dieu et son adoration sont révélés par le tabernacle. Voyez-vous, vous regardez, donc, dans la Genèse, c'est la puissance de Dieu. Quand on tombe, la sainteté de Dieu, c'est l'Exode. Et l'amour et son adoration dans le tabernacle, c'est encore dans l'Exode. Donc, il y a plusieurs choses qui nous sont révélées sur Dieu dans le livre de l'Exode. L'erreur de la théologie moderne est de divorcer l'amour divin de son pouvoir et de sa sainteté. Le symbole de la sainteté est le feu. La loi fut donnée au milieu du feu. Exode 19, verset 18. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Donc, on a vraiment deux aspects là-dedans, l'aspect inapprochable. On n'approche pas de Dieu de n'importe quelle façon. Exode 19, verset 12 et verset 23. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Alors c'était quand même, ça devait être terrifiant pour les Juifs de l'époque de vivre ça. Et dans le verset 23, Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï car tu nous en as fait la défense express en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-les. Donc, il y avait un aspect de inapprochable. Il y avait aussi l'aspect sévérité. Exode 19, verset 13 et verset 16. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Ou on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Et dans le verset 16, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Regardez les mots. Un épouvante, là, je sais pas quand vous étiez plus jeune, on entendait parler des fois d'un cheval qui part à l'épouvante. Un cheval qui partait à l'épouvante, là, c'est que sa peur était tellement grande qu'il ne savait plus ce qu'il s'en allait, il pouvait faire n'importe quoi. Mais on dit que le peuple de Dieu, quand la loi a été donnée, était dans cet état psychologique-là. C'est ça que ça dit. Qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Les éclairs, le tonnerre, le feu, et tout ce qui se passait là était terrifiant pour eux. Donc, il y avait aussi vraiment l'aspect de l'unicité et de l'inviolabilité de la loi. Maintenant, la loi et l'Évangile. La loi est accomplie par Christ de façon substitutive pour les élus. Christ a obéi aux préceptes et à la punition de la loi. Donc, la loi comprenait deux aspects. Il fallait que Dieu punisse chacun des péchés que les pécheurs avaient faits, l'aspect punitif. Il y avait aussi l'aspect précepte. Précepte, c'est que tous les êtres humains sont obligés d'accomplir à la perfection tout ce que Dieu demande. Donc, les deux aspects, c'est Christ qui le fait, mais il le fait à notre place. Non seulement on n'est pas capable de recevoir la punition, parce que si on la recevait, l'éternité elle-même ne suffirait pas pour satisfaire Dieu. Et les préceptes, ben, il n'y a aucun homme qui n'a jamais accompli la loi à la perfection. Surtout quand on commence à comprendre, quelqu'un qui me disait tout à l'heure avant le culte, qui disait les 10 commandements de Dieu de Kevin DeYoung, et il commence à voir toute la largeur et toute la profondeur et toutes les exigences de Dieu dans la loi. Plus tu la comprends, plus tu te rends compte que vraiment tu étais très loin de l'objectif de l'accomplir à la perfection. Romains chapitre 10, verset 4, « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Il est en train de parler des Juifs qui croyaient qu'ils étaient capables d'accomplir la loi comme il faut. Il dit « Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Quelle était la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'était celle en Christ. Ils ne se sont pas soumis à ça. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 21. « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Galates chapitre 3, versets 8 à 17. « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la croix et de la loi et ne la met pas en pratique. » Hey, on dit qu'on est maudit si on ne la met pas toute en pratique. Il n'y a personne qui a jamais fait ça, qui acceptait Jésus-Christ, et nous, par la foi, ça nous est donné. Très intéressant. Verset 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ça, c'est un des versets extrêmement importants à comprendre, Galates 3:16, très important. Là, on tombe dans la partie qu'on a commencé à étudier un petit peu la semaine dernière avec les diapositives, quand on a regardé le tabernacle. Le tabernacle, ça se situe dans le livre de l'Exode, à partir du chapitre 25 jusqu'à la fin, le dernier chapitre du verset, chapitre 40. Donc, dans l'Exode, il y a la sortie d'Égypte. Israël a accédé à la liberté. Avec la loi, il a accédé à la responsabilité. Avec le tabernacle, il accède à l'adoration et au privilège. Donc, les quatre sections de cette partie du livre-là. Section 1, le modèle est donné à Moïse durant ses 40 premiers jours sur le mont Sinaï, chapitre 25 à 31. Le Seigneur est en train d'y donner comment tu dois construire ça. Il donne tous les détails au complet. Il ne fallait pas que ça soit fait n'importe comment, parce que quand vous avez regardé visuellement, tout ça, ça représente un aspect ou un autre de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, il fallait que toutes les choses soient faites à la perfection selon le plan de Dieu. La section 2, dans cette partie-là de la Bible, d'Exode, c'est l'exécution est temporairement suspendue durant la chute d'Israël dans l'idolâtrie. Vous vous souvenez de ça? Qu'à un moment donné, ils ont arrêté la construction parce que le peuple était... Moïse était encore sur la montagne et quand il est descendu en bas, il a vu le peuple qui était tombé dans l'idolâtrie, il adorait le veau d'or et c'était un immense party, autrement dit. Un party vraiment dégueulasse. Là. Le peuple était retombé dans l'idolâtrie la plus basse. Donc, le veau d'or, ça marche du chapitre 32 jusqu'au chapitre 34. Et on sait que Moïse avait établi une tente qui était en dehors du camp. Très intéressant. Tout ça, c'est fortement symbolique. Exode, chapitre 33, verset 7. Moïse prit la tente. Il la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela « tente d'assignation ». Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Voilà qu'on ne peut pas rentrer dans les détails, parce que ça, c'est extrêmement intéressant, tout le symbolique de ça. Section 3, le tabernacle est complètement érigé, exactement un an après l'Exode. Chapitre 35, aller jusqu'à la fin du chapitre 40. Exode 40, verset 2. « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. » Donc, le tabernacle et la tente d'assignation, c'est la même chose. Vous remarquerez que c'est hors du camp. C'est vraiment de valeur qu'on puisse rentrer dans les détails. C'est très intéressant, toutes ces affaires-là. Section 4. « Le tabernacle est rempli de la présence divine. » Vraiment, quand tout était terminé, ça nous dit que la présence divine est descendue sur le tabernacle. Versets 34 à 38 d'Exode 40. « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Moïse avait été divinement et solennellement averti de faire tout selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Hébreux, chapitre 8, versets 4 et 5. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et onde des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Ait soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Fais penser un petit peu à ceux qui font des modèles de toutes sortes de choses. Là. Ils ont un plan. Là. Bien, le plan avait été donné par Dieu lui-même. Alors l'importance de Moïse de faire exactement les matériaux, les mêmes métaux, les mêmes peaux, tout là-dedans avait été planifié. C'est un plan divin. Quelque part, c'est pas une petite affaire. C'est pour ça que le tabernacle, c'est une étude extrêmement intéressante à faire, parce qu'on voit que Dieu est en train de parler de son Fils. Et plus on prend conscience de ça, puis qu'on fait le lien, plus on trouve ça intéressant. Alors, toute cette partie sur le tabernacle comporte quatre principales caractéristiques. La structure, l'ameublement, la sacrificature, et les offrandes. Si vous prenez le texte puis vous le divisez, vous allez voir que ça fit exactement avec ces quatre éléments-là. Donc, la structure. La structure comporte trois parties. Le parvis, 100 coudées par 50 coudées, le sanctuaire et le saint des saints. Le parvis avait 100 coudées de long par 50 coudées de large, soit un périmètre de 300 coudées ou de 150 mètres. Il était délimité par une clôture composé de 60 piliers, probablement en bois de sittim, joints par des baguettes et des crochets d'argent. Les piliers étaient posés sur 60 bases d'airain et coiffé de 60 chapiteaux d'argent. À ses piliers était suspendue une tenture de fin lait retors de 5 coudées de haut, 2,5 mètres, sur 280 coudées de longueur, 140 mètres, soit une surface totale de 650 mètres carrés de toile suspendue aux baguettes d'argent, à laquelle il faut ajouter la porte de 20 coudées de large. Donc, il y avait cette partie-là. Il y avait le lieu saint, qu'on appelle aussi. Le lieu saint. Donc, l'entrée du tabernacle avait 10 coudées de haut et 10 coudées de large. Le rideau d'entrée a donc à peu près la même dimension, 10 coudées par 10 coudées, soit environ 5 mètres par 5 mètres, soit environ 25 mètres carrés. Même s'il a la même surface que le rideau d'entrée du parvis, il est deux fois plus haut. Pour pénétrer dans la présence divine dans le sanctuaire, il faut une perception spirituelle plus élevée que pour entrer dans le parvis. Très intéressant comme idée, ça aussi, quand vous vous mettez, vous arrêtez à penser à ça. Donc beaucoup de croyants se limitent aux bénédictions acquises à l'autel d'airain, dans le parvis, sans entrer dans le sanctuaire, accessible maintenant à tout racheté, comme on peut le voir dans Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Donc, tu avais l'entrée du tabernacle, tu avais l'entrée, le rideau d'entrée était supporté par 5 piliers et leurs crochets. Ces 5 piliers reposaient sur des bases d'airain. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire, il fallait s'arrêter sur le seuil constitué de ces 5 bases d'airain. La présence d'airain ici est une particularité remarquable et significative avec les agrafes du tapis de poils de chèvre, car tous les autres éléments en métaux dans le sanctuaire étaient en or ou en argent. L'airain représente le jugement, la condamnation du mal. En Sophonie, chapitre 1, verset 9, nous lisons cette déclaration solennelle. « Je punirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil. » Il y a là un enseignement de toute actualité. Avant d'entrer dans la présence, dans la demeure de Dieu, dans la présence du Seigneur, nous devons ressentir cet exercice de conscience avant de franchir le seuil. C'est un seuil d'airain qui correspond à cette mise en garde que nous trouvons sous la plume de Paul, que chacun s'éprouve soi-même. Donc, le jugement de soi-même. Après avoir franchi la porte du parvis, après s'être arrêté à l'autel d'airain, après s'être purifié à la cuve d'airain, il y a encore un seuil d'airain comme dernier appel du jugement de la chair. Prends garde, tu entres dans la présence divine que tu ne dois pas profaner. Que cette réalité aussi précieuse que solennelle parle à nos cœurs et à nos consciences. Nous devons bien reconnaître que trop souvent et facilement, nous avons moralement et spirituellement sauté par-dessus le seuil. Quand on rentre dans la présence de Dieu, il faut prendre conscience devant qui on rentre. Quand il dit sauter par-dessus le seuil, là, ça veut dire que des fois on rentre et on ne prend pas conscience devant qui on se trouve. C'est comme quelqu'un qui rentrerait dans le bureau d'un premier ministre, puis il rentre là comme si ce serait dans le bureau de n'importe qui. On ne rentre pas dans la présence de Dieu avec une attitude semblable. Et donc, il y avait la dernière partie qui était le Saint des Saints. Donc, il y a trois choses à l'intérieur du Saint des Saints. Il y a, c'est les dimensions, 10 par 10 par 10, c'est un cube. Il y avait son but, qui était une habitation de Dieu pour son peuple. Et il y avait son caractère sacré. On va aller rapidement, parce que j'aimerais bien finir cette leçon-là cette semaine. Il y avait l'ameublement aussi. On va le revoir dimanche. Vu qu'on va le revoir dimanche, ça va être plus facile à voir les différentes choses qu'il y avait là-dedans. Il y avait 7 articles dans l'ameublement. Il y avait l'autel d'airain, on appelle l'autel des holocaustes, la cuve d'airain, la table des pains de proposition, le chandelier d'or, l'autel des parfums, l'arche, et le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle de l'arche qui était fait en or pur. Alors, toutes ces choses-là, c'est sûr que là, si on le voit pas, quand on va le voir dimanche, vous allez voir, quand on voit les items, et là, ça nous aide à comprendre un petit peu toutes ces affaires-là. Dans la page 14 et à la page 15, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous laisse regarder ça un petit peu. Tu avais donc une colonne où j'ai mis l'ameublement avec les différentes choses que je viens de vous parler. L'hôtel des reins, la cuve des reins, la table des pleines propositions, etc. À côté, tu as le symbolisme. Autrement dit, ça symbolisait quoi, ces items-là? Et tu avais la typologie. Donc, tout ça, ça représente quel aspect de l'œuvre de Jésus-Christ? Alors, c'est très intéressant à regarder ça. Je vous laisse regarder ça chez vous avec attention. Vraiment, lisez ça et essayez de voir chaque item, qu'est-ce qu'il pouvait représenter comme symbole et quel aspect de l'œuvre de Jésus-Christ que ça veut illustrer. Plus on comprend conscience de ça, plus ça devient très intéressant. Ensuite, on a une page, j'ai fait à la page 15, l'article du tabernacle, donc vous avez encore les sept articles, et vous avez des versets qui viennent vous montrer la réalisation, l'accomplissement de tout ça, mais dans le Nouveau Testament, par rapport de Christ. Alors, vous avez les sept articles, puis vous avez, à quelque part, des versets du Nouveau Testament qui viennent illustrer comment cet aspect-là venait montrer. Alors, quand ça dit, disons, la table des pains de proposition, quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », on voit la table des pains de proposition. Le chandelier d'or, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », le chandelier d'or était d'or pur, battu. Il était pas battu, ça veut dire que tu prends de l'or, tu tapes dessus jusqu'à temps qu'il prenne la forme des sept chandeliers. Là. Faut que tu tapes longtemps. Qu'est-ce que ça représente, ça, dans la vie de Jésus-Christ, qui a été maltraité par les hommes? Tout ça, c'est d'une grande richesse. Alors, vous avez aussi la sacrificature. Quand vous regardez le sacrificateur, il était habillé d'une certaine façon. Hein. Le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare, la ceinture, les caleçons de lin. Tout ça encore vient parler de Jésus-Christ. Donc, l'éphod, ça représente la divinité de Christ, son origine céleste, sa royauté, son sacrifice, sa justice parfaite. Les pierres d'onyx, c'étaient les 12 tribus d'Israël. Le pectoral, vous aviez sur le pectoral les noms des enfants d'Israël, étaient sur le cœur du souverain sacrificateur, très symbolique, c'était sur le cœur du souverain sacrificateur, les noms sont inscrits. Donc, c'est vraiment une typologie qui est glorieuse. L'éphod est porté sur les épaules, représente la force. Le pectoral est porté sur le cœur, donc représente l'amour. La tiare est portée sur le front, c'est marqué sur la, il y avait une lame d'or, c'est marqué « sainteté à l'éternel », à quelque part. L'étude approfondie et détaillée des chapitres 25 à 40 est extrêmement riche en enseignements sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Toute personne qui va passer un temps à étudier ça en profondeur va être profondément et richement bénie. Ce sera pas long. Je vous recommande deux livres que je vous ai mis. Il y a une vidéo qu'on va voir dimanche. Je vous l'avais mis l'adresse là, dans ceux qui dans le et je vous avais le livre que je vous avais montré mercredi dernier qui explique. Il y en avait un petit qui s'appelle la Maison d'or et l'autre le Tabernacle, qui vous donne tout ça avec beaucoup de détails et beaucoup de versets. Très intéressant. Comme application, la seule chose que je veux dire par rapport à l'ensemble de ce qu'on étudie sur l'Exode, le livre de l'Exode est un trésor inépuisable d'enseignement pour le chrétien. Prions le Seigneur de nous donner le vouloir et le faire pour étudier ce livre. Il améliorera grandement notre compréhension de beaucoup de concepts théologiques élaborés dans le Nouveau Testament, et plus particulièrement une plus grande appréciation du livre des Hébreux qui y fait référence souvent. Que le Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement pour nous avoir laissé sa parole si riche et si profonde.